Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
Bienvenue à tous et à toutes. Si vous nous rejoignez à l'instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, au menu de nos débats, la politique, bien sûr. On va parler de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, du côté du gouvernement. Est-ce que on va arriver à trouver un gouvernement d'ici la semaine prochaine? Et puis, on va parler peut-être d'abord, si vous me le permettez, du Covid. Parce que le Covid risque bien de bousculer nos vacances avec la dynamique fortement en hausse des derniers jours. 124 724 nouveaux cas recensés hier. Avec 15 000 patients hospitalisés, 900 en soins critiques et 38 décès en 24 heures. Et il y a aussi ce chiffre, 71% des Français qui sont favorables au port du masque dans les transports en commun. On fait le point avec Éléonore de Vulpière et on en débat ensuite.
Près de 125 000 nouveaux cas positifs en une journée. À la veille des vacances scolaires, le rebond du variant BA5 inquiète. Ce variant d'Omicron est moins agressif, mais plus contagieux. Pour le professeur Jean-François Delfrécy, président du Conseil scientifique, la France va vivre une situation similaire à celle de l'été dernier.
Le pic de contamination va être probablement plutôt, il faut être avec prudent, mais plutôt pour fin juillet, ce qui veut dire que le retentissement sur le système de soins n'est pas encore à son maximum, puisqu'il y a toujours un décalage. Et puis ensuite, les choses vont probablement se calmer pour une série de raisons. Et puis, BA5 réapparaîtra.
Pour le moment, il n'y a pas eu d'admission en soins critiques et il estime que d'ici une semaine, les hôpitaux auront environ 1500 lits occupés par des malades du Covid. Depuis mardi, le gouvernement conseille le port du masque dans les lieux clos et les transports en commun. Mais les Français restent partagés sur la question.
Donc le port du masque, oui, il faudrait peut-être le remettre un petit peu, pas dehors, mais dans les magasins, dans les lieux clos.
Oui, je suis prête à le porter et je suis prête à penser que les gens sont capables de savoir s'il faut qu'ils le portent ou pas.
J'ai vraiment pas envie de le reporter.
Non, on n'a pas envie. Exactement. En plus, ça prend tout le visage, on a du mal à respirer. Je pense que c'est pas utile pour le moment.
Le virus ne devrait pas gâcher l'été car les Français se sont fait vacciner. En plus de la reprise des gestes barrières, le gouvernement recommande aux plus fragiles et aux plus de 60 ans d'effectuer une quatrième dose pour affronter cette période estivale en toute sérénité.
Et on va en débattre ce soir avec nos invités. Nous sommes avec Karim Zerebi, consultant CNews. Charles Consigny, avocat. Bonsoir.
Merci
d'être avec nous.
Merci à vous.
Alexandre Devecchio, journaliste au Figaro, est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir, Laurent.
Thibault de Montbrial, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Bonsoir à vous. Bonsoir. Qui est-ce qui est prêt à remettre le masque? Charles Consigny, vous êtes prêt à vous masquer à nouveau?
Pas tout à fait, je dois dire.
Je sens bien ça.
Moi, j'étais très frappé par le caractère kafkaïen et hystérique des mesures sanitaires. J'ai été frappé aussi par la célérité avec laquelle beaucoup d'individus divers et variés se faisaient les surveillants du masque de leurs voisins, notamment dans les trains, dans les transports. On avait souvent des gens assez agressifs qui vérifiaient qu'on portait bien son masque, qui nous regardaient très mal si on avait la mauvaise idée de boire une gorgée d'eau, etc. Donc j'aimerais bien ne pas revivre cette espèce d'épisode des Schtroumpfs en version sinistre qu'a été la crise sanitaire sur la question des gestes barrières. Après, je ne suis pas obtus, mais disons, je pense que entre les vaccins, les masques FFP2 que peuvent porter les personnes fragiles et qui les prémunissent, parce que le masque chirurgical classique ne vous prémunit pas, mais le masque FFP2, oui. Je pense que
on a ce qu'il faut pour ne pas rebasculer dans
une société orwellienne comme on y était il y a quelques mois.
Ça vous fait peur. Thibault de Montbrial.
Oui, moi je suis.
Pour le masque, contre le masque?
Non, mais il y a des contradictions. Il y a 71% des gens qui sont pour le port du masque, qui le portent. Vous voyez, c'est à un moment, c'est des choix individuels. Il faut pas attendre après l'État pour tout. Et il y a une deuxième question. Moi, c'est que je me souviens très bien que lors de la crise, la quasi-panique initiale à l'hiver 2020, le grand argument et qui pouvait s'entendre, c'était qu'il y avait un problème sur la capacité de notre système de santé à absorber le choc.
Il est toujours là le problème.
C'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire qu'on est 2 ans et demi après. Et le problème est toujours là.
Ah, oui.
C'est-à-dire que c'est là qu'il faut pointer la difficulté. On a un gouvernement qui ne gouverne plus, on n'a plus de conseil des ministres, il ne se passe plus rien depuis des mois. On a un ministre de la Santé qui est battu aux élections, mais qui est toujours ministre. Et en attendant, on a une épidémie qui remonte et on nous dit le virus est moins dangereux. S'il est moins dangereux, donc tout va bien. Ah, mais il y a quand même un petit problème pour ceux qui sont fragiles. Mais qu'est-ce qu'on a fait à l'hôpital pendant pendant ces trois années. C'est un vrai sujet politique, je pense.
Le problème
sinon,
est
le
toujours
masque,
là.
Ceux qui ont envie de le mettre, ils le mettent. Et pour moi, c'est devenu un faux sujet.
Alexandre Devecchio, il y a beaucoup de gens aussi qui nous disent, vous savez, pendant l'élection présidentielle, il y avait autant de contamination. On n'en parlait plus du tout. Et là, évidemment, ça remonte. Là, on était dans une tendance baissière, là, dans une tendance haussière. Et là, tout d'un coup, on remet le sujet sur la table. Il y a de la manipulation politique ou c'est simplement les chiffres qui sont les chiffres, voilà, les chiffres de contamination ?
Je ne sais pas s'il y a la manipulation, je pense que les chiffres sont là, mais après, on choisit de se saisir politiquement d'un sujet ou d'un autre. Après, il y a aussi un phénomène médiatique. Effectivement, il y a eu la guerre en Ukraine pendant la campagne présidentielle. À un moment donné, c'était le sujet unique. Ensuite, on est quand même repassé un peu aux élections. Ensuite, il y a eu les législatives. Maintenant, on s'ennuie un peu et donc il faut bien parler d'autre chose. Donc ça dit...
Non, on s'ennuie pas. Je suis pas d'accord, Alexandre. Dit...
Non, on s'ennuie pas en plus.
On est là, on est sur les chiffres qui sont en train de remonter. Quoi, voilà.
Qui sont en train de remonter, mais vous l'avez dit, certes, ils remontent, mais c'était à peu près les mêmes il y a deux mois. Donc voilà. Et surtout, c'est le gouvernement qui s'en est saisi. Et on peut quand même constater qu'il s'en est pas saisi il y a deux mois.
Alors, et puis surtout, on dit que le virus est toujours moins agressif. C'était dit dans votre reportage. Plus contagieux, mais moins agressif.
Oui, mais s'il y a de plus de monde à l'hôpital, ça revient au même.
Le d'instrumentalisation, il apparaîtra si on en revient à des mesures d'obligation, de restriction, de privation de
liberté. Là, le gouvernement est très prudent.
Ce sera effectivement très mal vécu et on se dira, mais finalement, à quoi joue-t-on ? Donc la réalité, c'est qu'il ne faut pas qu'on sombre dans l'hystérie, dans l'irrationalité. Moi, je suis assez d'accord à l'idée de dire on est passé du stade de l'infantilisation à un stade de l'obligation. Maintenant, il faut rester au stade de la responsabilisation. Donc chacun doit savoir, à un moment donné, en fonction aussi de sa situation de santé, de sa génération, s'il doit porter un FFP2 ou pas dans les transports, quand il rentre dans les magasins, en responsabilité. Donc, sans passer par le stade de l'obligation. Je suis assez d'accord, moi, avec cette posture aujourd'hui. Après, sur la situation des hôpitaux, non. Il ne faut pas dire qu'elle est la même. Elle a empiré. Les choses sont plus graves. Et c'est là où c'est dramatique. C'est que 2 ans et demi après, on se dit que la Covid a bon dos pour expliquer effectivement le mal-être du personnel hospitalier et la situation de l'hôpital. Non, l'hôpital allait mal avant la Covid, il va encore plus mal pendant la Covid, et 2 ans et demi après, on a des fermetures de lits, on a des effectifs manquants, donc, et on a une incapacité aujourd'hui à satisfaire effectivement les femmes et les hommes qui sont là pour nous soigner. Donc c'est dramatique. Donc on n'a pas réformé comme ils l'attendaient, en redonnant du pouvoir aux médecins, aux infirmières, aux aides-soignantes, aux gens de terrain. On est toujours dans une suradministration, on est toujours dans une gestion comptable, donc le compte n'y est pas. Effectivement, il ne faut pas en venir au stade de l'obligation, mais il faut surtout répondre aux besoins de l'audit des hôpitaux.
C'est un problème général de la politique sur tous les sujets. Il y a un sentiment d'impuissance publique qui nourrit en réalité la crise de la politique et l'abstention. Et du coup, on a des politiques qui gèrent l'aspect superficiel des sujets sans s'attaquer aux sujets structurels. Donc pour combattre le Covid, on va nous parler du masque, mais effectivement pas de réformer l'hôpital. Et c'est un autre sujet, mais c'était un peu la même chose sur le Stade de France. On va résoudre les problèmes de billetterie, mais on ne va pas s'attaquer à la délinquance en Seine-Saint-Denis. Donc, si vous voulez, tout est comme ça. Et je crois que les Français ne sont pas dupes. Et que là, la crise démocratique que nous vivons, c'est une crise de l'incapacité des politiques à résoudre les problèmes, quels qu'ils soient d'ailleurs, de gauche, de droite, du centre.
On va faire une petite pause. On se retrouve tous les quatre dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va parler de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, l'élection d'Éric Coquerel à la présidence de la Commission des Finances. S'agit-il d'un acte de piraterie ? C'est ce que dit en tout cas le Rassemblement National, furieux d'avoir vu ce poste lui échapper alors qu'il est le premier parti politique d'opposition. Que s'est-il passé en coulisses ? Réponse dans un instant dans Punchline, à tout de suite.
Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
On se retrouve sur le plateau de Punchline, sur CNews et sur Europe 1. L'événement à l'Assemblée nationale aujourd'hui, c'était l'élection du président de la Commission des Finances. C'est donc Éric Coquerel de la France Insoumise qui a été élu, un poste qui était convoité par le Rassemblement National, qui est le premier groupe d'opposition avec 89 députés, mais qui n'a pas pu barrer la route au candidat unique de la NUPES. Cette élection provoque de très vives réactions. On est sur place avec Florian Tardif et Antoine Durand. Bonsoir à tous les deux. Florian, racontez-nous ce qui s'est passé en coulisses. Comment est-ce que c'est Éric Coquerel qui a été élu et pas le candidat Tanguy du Rassemblement National?
Ce matin, nous avons assisté à une élection mouvementée. Laurence, élection mouvementée, pourquoi? Car il y a eu trois interruptions de séance entre le deuxième et le troisième tour pour élire ce président de la commission des finances. Interruption de séance de la part des Républicains, mais également de la part du Rassemblement national. Les membres du Rassemblement national qui convoitaient ce poste et qui estiment que ce poste aurait dû leur revenir de plein droit, tout simplement parce qu'ils sont le premier parti, groupe d'opposition ici à l'Assemblée nationale, alors que la NUPES est seulement la première force d'opposition. La nuance est importante, vous allez le comprendre. Le Rassemblement national qui a donc tenté de nouer un accord avec les Républicains, sauf que les Républicains, cet accord a échoué, ne souhaitaient pas s'allier avec les membres du Rassemblement national, estimant qu'ils avaient trop à perdre. Et donc, d'un point de vue arithmétique, faute d'accord, ce sont les membres de la commission donc des finances de la NUPES qui étaient plus nombreux que les membres du Rassemblement national. C'est pour cela qu'Éric Coquerel a été élu au terme du troisième tour, président de cette commission des finances. Écoutez sa réaction suite à son élection.
Il était essentiel que la NUP montre qu'elle était le plus gros, la plus grande force d'opposition. Je dis la NUP parce que je suis le président au départ, enfin, au départ, le candidat de la NUP. Même si après, je suis le président de la commission de tous les, de toute la commission des finances. Mais donc, c'était essentiel. Voilà, c'était aujourd'hui que ça se jouait. C'était pas hier. On a vu qu'il y avait ce qu'on a caractérisé comme des ententes entre la majorité, y compris avec le Rassemblement national. Aujourd'hui se jouait un enjeu à la fois pour nous, mais un enjeu démocratique. C'était absolument nécessaire, et de ce point de vue-là, moi je tiens à le saluer. Voilà, il faut le saluer de temps en temps, le fait que la majorité ne participe pas au vote. Pourquoi c'était nécessaire? Parce que ça voulait dire qu'elle ne s'arrogeait pas le droit de choisir son opposition. Et ça, c'était décisif pour la suite. Elle l'a fait et je trouve ça plutôt positif.
Voilà pour les premiers mots d'Éric Coquerel, interrogé par Florian Tardif et Antoine Durand. Merci à tous les deux. Alors, il y a ceux que cette élection hérisse, ceux qui disent, mais comment est-ce qu'on a pu mettre un député de la France Insoumise à la tête de cette commission? Je pense qu'il y en a sur le plateau. Puis il y en a ceux qui disent, ben non, c'est normal, c'est le fonctionnement normal des institutions, en tout cas de cette règle non écrite sur la présidence de la commission des finances. Charles Consigny, vous dites... C'est très bien, finalement, que le député Charles de Courson, qui était centriste, se soit retiré de la course pour laisser le jeu démocratique se faire, c'est ça?
Oui, d'autant que, si j'ai bien compris, c'est parce que Charles de Courson ne voulait pas être élu avec des voix du Rassemblement national. Et moi, je suis assez inquiet de voir que cette notabilisation du Rassemblement national, qui à mes yeux reste un parti d'extrême droite, composé de nombreuses personnalités d'extrême droite, cette notabilisation, elle va de manière accélérée, jour après jour, quasiment heure après heure, depuis le résultat des élections législatives. Moi, je respecte le verdict des urnes, je ne dénie pas leur légitimité aux 89 députés du RN, je pense simplement que ça reste l'extrême droite à l'ancienne, comme on l'a toujours connu, que ce sont des gens à qui, à mon sens, il ne faut pas donner le pouvoir, parce que ce sont des gens qui portent des idées qui sont dangereuses et que donc les partis dits républicains, ça existe encore, et ils ne doivent pas s'acoquiner avec le Rassemblement national.
Donc cordon sanitaire absolument
je pense que ça doit continuer. Je suis frappé de voir à quelle vitesse ce cordon se disloque. Et je pense enfin que sur un plan purement tactique, même au-delà de convoquer l'histoire, etc., sur un plan purement tactique, ça n'est pas une bonne idée pour les Républicains. Là, je parle du parti des Républicains, de faire la moindre concession au Rassemblement national, puisque je sais que l'objectif du Rassemblement national, c'est d'avaler les Républicains, en tout cas la frange qui serait susceptible de les rejoindre, donc de les tuer. Voilà. Donc s'ils veulent survivre, il faut qu'ils soient intransigeants.
Voilà pour un qui est d'accord, il y en a un qui n'est pas d'accord, c'est Alexandre de Vecchio.
Non, oui, mais au moins je salue la transparence de Charles Consigny, qui au moins dit ce qu'il a au fond du cœur et ce qu'il est idéologiquement. Ce qui est bien, parce que c'est un parti, on ne sait pas parfois ce qu'il pense. Une partie du parti pense comme Charles Consigny, qui, il faut le rappeler, vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale, vous avez perdu les élections, donc à l'Assemblée nationale, c'est peut-être plus compliqué que ça, mais je pense comme vous que...
Ouais, on dit souvent que c'est plus compliqué que ça pour justifier on fait des choses inavouables. On dit souvent que c'est parce que c'est compliqué.
Non, que c'est plus compliqué à l'intérieur de LR, qui certains auraient pu faire barrage à Éric Coquerel, et d'autres étaient contre comme vous, mais ça donne une indication très forte sur le fond, sur le fait qu'effectivement, LR considère que le Front National est un plus grand danger pour la République que la France insoumise et Éric Coquerel. Moi, je ne suis pas convaincu. Je pense que Éric Coquerel est bien d'extrême gauche. Si on prend toutes les déclarations de Jean-Luc Mélenchon, la plus marquante étant sur la police, on voit qu'il est d'extrême gauche. Charles Consigny, je ne vois pas en quoi Marine Le Pen aujourd'hui est d'extrême droite. Est-ce que défendre la laïcité, Marine c'est d'extrême droite? Est-ce que défendre le pouvoir d'achat, c'est d'extrême droite? Est-ce que réguler
l'immigration, c'est d'extrême droite? Affiche présentable au RN, c'est Marine Le Pen et Jordan Bardella. On ne voit d'ailleurs que eux dans les émissions à grande écoute. Et leurs autres responsables, excusez-moi, présentent le visage de l'extrême droite.
Moi, j'ai eu à des. Il faut avoir des noms. Quand même. C'est Jean-Philippe Tanguy qui était candidat à la commission des finances.
Je sais que ça ne vous embête pas, Alexandre Devecchio. Moi, je suis contre l'union des droites. Je pense que
contre l'union des droites.
Moi, j'ai vu ce qui s'est passé à Melilla, par exemple, en Espagne. On a vu ces images de migrants qui étaient déjà à bout de force, qui étaient littéralement en train de mourir. Qu'est-ce qu'ils se sont pris? Des coups de matraque à la frontière. Et ça a été applaudi par les sympathisants du Rassemblement National. Donc moi, je ne veux pas de ça en France. Et par exemple, je vous donne un nom, mais il y en a plein.
Et après, j'ai eu à débattre
récemment dans une autre émission avec une députée fraîchement élue du Rassemblement National qui s'appelle Edwige Diaz. Et ben, elle est censée être l'incarnation de la notabilisation du parti. Qu'est-ce que j'ai eu très vite? Des attaques en dessous de la ceinture, quelque chose de très agressif, immédiatement des références aux étrangers qui prendraient les logements sociaux, des Français, etc. C'est-à-dire tout de suite le rouleau compresseur d'un parti qui, à mon avis, n'a pas changé.
Thibault de Montbrial, sur cette élection de la France insoumise à la Commission des Finances.
Plusieurs choses. D'abord, mathématiquement, et ça avait été rappelé dès hier par certains députés LR et ce matin par Bruno Retailleau, qui est le président du groupe LR au Sénat, la droite, en ajoutant ses voix à celle du RN, ne pouvait pas faire basculer l'élection. C'est-à-dire que le groupe NUPES uni ne pouvait que remporter cette élection. Donc là, on a eu un débat qui est passionnant, mais qui est un débat complètement théorique.
Charles Consigny pensait, c'est très clair. Sur la droite.
J'ai commencé à dire qu'il y avait plusieurs points. Le premier point, c'est que d'un point de vue pratique, certains ont voulu ériger cette élection en oukase sur le positionnement des uns et des autres. Le positionnement des uns et des autres n'aurait rien changé, il faut le rappeler. Premier point. Maintenant, sur le fond du débat, c'est un des désaccords que j'ai, nous en avons, la droite républicaine a différentes sensibilités. Je partage certaines choses avec Charles, mais j'ai certains points de désaccord, et en voilà un. Je pense que la France insoumise est au moins aussi dangereux que le Front National, et moi, je ne voterai jamais, que ce soit comme citoyen ou que ce soit un jour titulaire d'un mandat, pour des gens, si je pense qu'il y a un risque de voir quelqu'un de la France insoumise arriver à un poste important dans la vie politique française. Or,
Pourquoi ils sont plus dangereux que le Rassemblement National pour vous?
Je ne dis pas qu'ils sont plus dangereux que le Rassemblement National, je dis que c'est un danger de type différent et qui aujourd'hui est un danger beaucoup plus actuel. C'est-à-dire que le risque pour la société française dans l'état où elle est aujourd'hui, c'est pas le risque du Rassemblement National, dont on peut discuter longtemps sur le fait de savoir s'il est toujours d'extrême droite au sens où il l'était il y a 30 ans. Très sincèrement, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Mais surtout, l'extrême gauche aujourd'hui, Coquerel, c'est quelqu'un qui a défilé au cri d'Allah Akbar en novembre 2019 avec Jean-Luc Mélenchon et les islamistes. Ce sont des gens qui sont sur des lignes wokistes, qui sont clairement des islamo-gauchistes au sens où on a longuement débattu de ce que ça incluait. Et ce sont des gens qui sont dangereux et qui œuvrent à la fracture dans notre pays. Et pour finir, j'ajoute que depuis mardi, depuis la rentrée parlementaire, ceux qui sont sur à la fois des lignes, mais aussi des comportements physiques, des comportements vestimentaires, qui sont des comportements contraire aux valeurs des institutions, et les seuls, ce sont les gens de la France insoumise.
On écoute juste la réaction de Marine Le Pen après donc la défaite de son candidat, M. Tanguy.
Je la juge dramatique pour le pays, parce que je pense que laisser l'extrême gauche à la tête de cette commission, qui est une commission extrêmement sensible, est un signal qui est un signal inquiétant pour l'avenir. Les Républicains portent une responsabilité intégrale dans cette situation, ils le savent bien d'ailleurs, car ils avaient la possibilité de faire autrement. Ils ont refusé l'accord qui avait été envisagé et qui permettait, grâce à une présidence tournante, d'éviter précisément de confier cette place si sensible à M. Éric Coquerel.
Voilà, les électeurs de droite s'en souviendront, dit Marine Le Pen. Karim Zeribi.
En fait, cette commission des finances et le vote au sein de cette commission des finances a fonctionné normalement. Et certains le regrettent. Il a fonctionné normalement, pourquoi ? LR ne s'est pas allié à LFI ou à la NUPES pour faire allier Éric Coquerel. LR s'est abstenu. Et en s'abstenant, effectivement, c'est le groupe majoritaire, l'intergroupe majoritaire. Donc, mais si, il n'y a pas eu de doute, il s'est retiré.
Non, pas du tout. Le candidat LR s'est maintenu.
Charles de Courson, le centriste, qui s'est retiré.
LR s'est maintenu et les LR ont voté pour le candidat LR.
Oui.
Donc ils sont partis.
Et en votant pour leur candidat LR, en sachant qu'ils ne gagneraient pas, ils ont fait en sorte que chaque groupe vote pour son candidat.
Oui.
Et donc c'est la règle qui a toujours été celle-là.
Non, mais on est d'accord.
Au sein de la commission des finances. Donc cette règle, elle a fonctionné là, comme elle avait fonctionné il y a 5 ans, comme elle a fonctionné il y a 10 ans. C'est une règle. Le groupe majoritaire ne vote pas, ne prend pas part au vote, et les autres présentent un candidat. Et à la majorité de la représentation de cette commission, il y a quelqu'un qui est élu, c'est Coquerel. C'est marrant quand même que beaucoup, dont Alexandre Vecchio, estimaient que Van Debout, qu'il ne fallait pas diaboliser le RN, et c'est le premier à diaboliser LFI.
Alors...
Donc c'est marrant, je veux dire, il revendiquait le fait de sortir d'une approche de diabolisation des uns qui devaient participer au débat public, dont on devait accepter la représentation nationale par le vote des Français. Mais que je sache, la NUPES, c'est qui a voté ? Des extraterrestres ou les Français ? Ils sont majoritaires dans la commission des finances. Mais... La présidente leur revient. Donc ça te dérange ? Oui, au nom de ta sensibilité, mais démocratiquement parlant, c'est incontestable.
Est-ce que vous m'avez entendu dire que c'était un scandale pour la démocratie ?
Non, mais tu nous expliques qu'ils sont plus dangereux que le RN.
J'ai salué, moi, l'entrée de tout le monde à l'Assemblée nationale, y compris de LFI. Moi, de mon point de vue de citoyen, oui, je pense qu'effectivement, ça a été très bien dit par Thibault de Montbrial, leur position sur l'islam, notamment, leur position en matière d'immigration, leur agressivité me met mal à l'aise. Leur position sur la police. C'est plus difficilement,
à mon avis, plus difficilement
démontrable par le que pour le RN. Mais ensuite, moi, je les diabolise pas. Je dis juste simplement que je pense que la sensibilité d'un électeur de droite est plus proche. Moi, en tant qu'électeur plutôt de droite, est quand même plus proche d'un Jean-Philippe Tanguy que d'un Éric Coquerel. Et je me dis que les électeurs, et d'ailleurs Marine Le Pen, c'est pas hasard si elle dit les électeurs s'en souviendront. Voilà, ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas ce positionnement de Charles Consigne.
C'était Alexandre Devecchio, là c'est Charles Consigne.
Mais ça, c'est justement tomber dans le piège qui est tendu par le Rassemblement National. Ils en appellent justement aux électeurs, ils essayent de faire croire aux gens que leurs électeurs, que leurs élus LR sont en train de les trahir parce qu'ils choisissent d'abord, comme ça a été expliqué par Karim, ils n'ont pas choisi Coquerel. Ils ont voté pour leur candidat et Coquerel a été élu parce qu'il était majoritaire. Bon. Et ensuite, moi je pense que le piège qui est tendu à la droite dite traditionnelle, qui a du mal à survivre, mais qui arrive encore malgré tout à exister, c'est qu'elle a d'un côté cette espèce de centre-droit qui devient de plus en plus informe du macronisme qui fait une offensive sur elle, et elle a de l'autre côté, elle est attaquée des deux côtés, elle a le Rassemblement National qui veut aller expliquer aux gens qu'ils sont la vraie droite. Mais par ailleurs, pardon, moi-même en tant qu'électeur de droite, il y a beaucoup de choses au Rassemblement National qui m'en éloignent. L'absence de volonté réformatrice sur les retraites, par exemple, Marine Le Pen veut la retraite à 60 ans. L'État-providence hystérique, pire que le quoi qu'il en coûte de Macron. C'est-à-dire que ce n'est pas des chèques de 100 euros comme on a en ce moment avec Macron, qui, à mon sens, sont purement clientélistes
qui vident les caisses de l'État.
Non, mais... Oui, mais ça m'inquiéterait aussi de la part
de radicalité là-dessus. Éric Coquerel, ça va quand même plus loin.
Oui, mais d'abord, ce n'est pas lui en tant que président. Il faut arrêter. La présidence de la Commission des Finances, c'est pas le ministère. Mais non, mais ce n'est pas non plus le ministère de l'économie et des finances. Il ne va pas faire la politique économique de la France.
Non, mais il a accès aux dossiers fiscaux, par exemple.
Il aura accès aux dossiers fiscaux. Vous savez, les méthodes de l'extrême droite et les méthodes de l'extrême gauche, moi, je pense qu'elles se valent. Donc, les méthodes de Tanguy à la Commission des Finances, je ne sais pas si je les aurais plus redoutées que les méthodes de...
Alors, Thibault de Montbrial, un petit mot,
parce que là, pour le coup, je suis complètement d'accord avec ce que Charles a dit sur un point très précis. C'est que l'extrait de Marine Le Pen qu'on a entendu, là, pour le coup, ça, c'est de l'instrumentalisation. Parce que c'est important de souligner, encore une fois, quitte à se répéter, que ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est simplement que chacun a voté pour les siens. Et à partir du moment où chacun vote pour les siens, on ne peut pas parler de manœuvre d'appareil, d'entente et de trahison. Ça n'est pas vrai.
Non, mais ce que dit Charles est fondamental. Il dit, à un moment donné, il faut avoir le courage d'assumer une ligne politique qui ne soit pas celle du macronisme, qui ne soit pas celle du Rassemblement national. Nous avons un logiciel à assumer, peut-être à retravailler, peut-être à démontrer, mais en tout cas, nous devons être nous-mêmes. Toi, aujourd'hui, tu es en train de dire, c'est pas grave s'ils sont absorbés par le RN.
Ce que je constate, parce qu'il y a quand même eu démocratiquement une question, c'est que normalement, c'est le groupe majoritaire. Et là, la NUPES, c'est la force. Donc eux, ils sont souvent alliés. Ce que je constate, c'est que la gauche s'allie dès le premier tour.
Ils se sont présentés aux élections.
La plus extrême.
Ils se sont présentés aux élections avec cette force-là.
Mais très bien. C'est plutôt efficace et que la droite s'y refuse. Et je pense que la ligne de Charles Consigny, c'est la ligne de
cadre. On continue le débat.
Il y a autant de lignes à LR que de députés et de responsables politiques.
Les titres de l'actualité sur Europe 1 et sur CNews avec Jeanne Cancard, 18h30.
Europe 1. Punchline. Laurence Ferrari sur Europe 1.
On se retrouve sur le plateau de Punchline, CNews Europe 1. Avant de parler de sécurité, enjeu évidemment très important pour les Français, un petit tour à Matignon où Elisabeth Borne continue ses consultations pour tenter de former un gouvernement. Ce sera pour la semaine prochaine avec d'autres échéances dès mercredi. Gauthier Lebret est sur place avec Charles Baget. Gauthier, ce soir, c'est la France insoumise qui est enfin reçue par la Première ministre, c'est ça ?
Oui, enfin reçu, puisque Laurence, Mathilde Panot a annulé à deux reprises sa rencontre avec Elisabeth Borne, ce qui d'ailleurs agace l'entourage de la Première ministre. Alors, au sujet des discussions entre les deux femmes, le pouvoir d'achat, puisqu'on a eu la confirmation aujourd'hui, c'est bien le pouvoir d'achat qui sera le premier grand texte présenté à l'Assemblée. Le but, trouver des compromis, des consensus entre la France insoumise et le gouvernement. Sauf que la France insoumise, par exemple, contrairement au Rassemblement national et à ce que dit Marine Le Pen, ne veut pas être une opposition constructive. Exemple très concret. La France insoumise a déjà annoncé vouloir déposer une motion de censure, contrairement au Rassemblement national qui veut faire cela seulement en cas de grave manquement du gouvernement. On a aussi appris aujourd'hui que le discours de politique générale d'Elisabeth Borne ne serait pas mardi finalement, mais bien mercredi. Ça laisse 24 heures de plus au gouvernement pour former justement une nouvelle équipe et à Emmanuel Macron, puisque Elisabeth Borne lui rend sa copie demain, normalement avec un nouveau casting ministériel. Et puis il y a aussi la question du vote de confiance. Elisabeth Borne va-t-elle le demander? Si elle n'est pas sûre de l'avoir, et c'est pas Mathilde Panot, chef de file de la France insoumise qui va la rassurer ce soir, eh bien, elle ne la demandera pas cette confiance. Ça serait la quatrième première ministre de l'histoire de la Ve République à ne pas demander cette confiance au Parlement.
Merci beaucoup Gauthier Lebret avec Charles Baget à Matignon. Il faut s'attendre à des ministres de droite, Charles Consigny, entrer dans le gouvernement. Est-ce qu'ils entrent dans le gouvernement ?
Des ministres de droite, je ne sais pas. Moi, je pense que c'est un peu prématuré. Et je pense que les Républicains ne peuvent pas se brader, si vous voulez. Je crois que ce qui pourrait être possible, mais peut-être pas tout de suite, c'est d'imposer à Emmanuel Macron une espèce de quasi-cohabitation. Moi, c'est quelque chose qui me paraîtrait une porte de sortie pour tout le monde, c'est-à-dire d'imposer un Premier ministre et des ministres
importants. Quand vous dites imposer les LR avec...
Oui, absolument, que les Républicains imposent...
Ils ne pèsent pas assez, il me semble.
Je ne suis pas sûr, parce que soit ils gouvernent avec eux, soit ils devraient aller chercher ces majorités texte par texte.
Ce n'est pas les 5 ans qu'on a eu, un premier ministre de droite, gouvernant avec Macron, et des ministres importants de droite, Darmanin, Bruno Le Maire.
Alexandre Devecchio.
À quoi ça sert d'être contre Macron si c'est pour...
Je te parle, Alexandre, des votes à l'Assemblée nationale. C'est d'avoir... Pour avoir les députés, les Républicains avec lui, il faudra qu'il fasse ce genre de concession. S'il débauche des gens isolés des Républicains sans l'accord des députés, les Républicains, ça ne l'avancera à rien, puisqu'il n'aura pas pour autant les votes des députés, les Républicains.
Mais il envoie un signal aux électeurs, quand même. Alors, un tout petit mot, rapidement, tout le monde. Carmizerebi.
On voit la fragilité des 61 députés LR à l'Assemblée nationale, c'est que, en fait, ils sont captifs pour Emmanuel Macron. Et c'est par là qu'il pourra aller chercher sa majorité absolue. Elle est relative aujourd'hui, mais c'est pas avec le RN et c'est pas avec la NUPES. Il le sait, Emmanuel Macron. Donc là, dans le remaniement, à l'évidence, il va essayer de déstabiliser ce groupe de 61 parlementaires qui est un peu fragilisé. Parce que ce groupe, il a quand même deux sensibilités. Il faut pas qu'on se raconte l'histoire. Une sensibilité qui serait pas opposée à l'Alliance des droites, je pense que Ciotti en fait partie, donc, et une sensibilité qui dit, non, on veut être fidèle à la ligne de Jacques Chirac, on ne fera jamais d'alliance avec l'extrême droite, donc il faut que nous soyons nous-mêmes. C'est un peu la position de Charles Consigny. La réalité, c'est que Emmanuel Macron va en jouer. Et je suis sûr que dans le remaniement, vous verrez, il ira chercher des personnalités de droite. Et il tentera, lors des premiers projets de loi qui seront présentés, des alliances de projets. Donc, sur peut-être la réforme des retraites, ils sont d'accord pour une réforme et un départ à 65 ans, sur la sécurité et la justice, parce qu'on sait très bien qu'Allaire a fait des propositions dans le projet présidentiel de Valérie Pécresse. Donc, et là, il y a des angles, effectivement, d'attaque pour aller grignoter les 45 points manquants pour avoir une majorité absolue. Mais il n'y a que par là qui peut obtenir le salut.
Ça, on est d'accord.
Il y a
ça,
pas d'autres. Il y a pas d'autres.
D'accord, maintenant. Où veut être LR?
Alexandre Lavecchio.
Est-ce que LR veut être un parti d'opposition ou est-ce qu'il veut être un parti de gouvernement? Et est-ce qu'il a un avenir s'il est absorbé pour le
Thibaut de Montbrial, non, avant de passer à la sécurité.
Ce que dit Karim, c'est qu'il peut y avoir des discussions texte par texte. Oui. On a beaucoup dit à l'époque, moi le premier, que le candidat tardif Emmanuel Macron avait beaucoup pris dans le projet, dans le programme de Valérie Pécresse. Si jamais il y a des mesures qui étaient dans le programme de Valérie Pécresse qui sont présentées par un gouvernement, moi ça ne choquerait pas du tout que LR les vote à l'Assemblée. Par contre, votre question c'était sur les postes de ministres. Je sais qu'en ce moment il y a beaucoup, le téléphone chauffe et il y a beaucoup de gens qui sont, disons, sur la sensibilité de droite au gouvernement, qui passent des coups de fil à des gens qui sont leurs petits copains ou pas de droite pour savoir s'ils pourraient venir. Mais ça, c'est franchir un pas qui est complètement différent. Autant voter un texte parce qu'il serait de sensibilité acceptable, c'est une chose. Autant entrer en gouvernement, à mon avis, il faut quand même se souvenir que si les gens, dans les grandes difficultés de la droite actuelle, ont quand même voté dans certaines circonscriptions pour avoir des députés de droite, c'est pas pour les retrouver tout de suite au gouvernement avec Emmanuel Macron.
La sécurité, la question qu'on a posée aux Français, c'est faites-vous confiance à Emmanuel Macron pour assurer la sécurité en France? La réponse du sondage CSA pour CNews, elle est claire. 57% des Français disent non. Nous ne faisons pas confiance à Emmanuel Macron pour cela. 43% oui. Et alors là, si on regarde l'électorat de droite, puisqu'on l'évoquait, 77% des électeurs de droite disent non, ils ne font pas confiance à Emmanuel Macron. La sécurité, grand échec d'Emmanuel Macron. Écoutez Robert Ménard, le maire de Béziers.
C'est un des échecs incroyables de M. Macron. Enfin, honnêtement, c'est pas un sentiment d'insécurité. Dans bien des endroits, il y a moins de sécurité. Vous le voyez, tout le monde le voit, ça saute aux yeux. Il faut dire qu'on a eu des ministres de l'Intérieur. Monsieur Darmanin, c'est un peu moins que les autres. Mais avant, c'est Castaner, et avant, c'était une vraie catastrophe. Oui, là, c'est une des raisons qui, par exemple, ont fait que moi, j'ai voté pour Marine Le Pen.
Voilà, pour Robert Ménard. Thibaut de Montbrial, vous êtes spécialiste de la sécurité. Si on prend tous les critères, ça a empiré en 5 ans.
Ah mais là les clignotants sont au rouge écarlate. On a une délinquance qui explose notamment à Paris, avec les scénarios les plus sombres qui moi m'étaient annoncés par les hauts fonctionnaires qui dirigent les services de police en 2019, début 2020. Puis il y a eu la crise sanitaire qui a un peu figé tout ça. Et là on arrive vraiment. Moi on m'avait expliqué en 2019 que le centre de Paris et le Trocadéro allaient devenir des coupes-gorges à cause notamment de l'immigration clandestine et à cause de l'incapacité du système judiciaire pour plein de raisons. On va pas se lancer ce soir, mais son incapacité quasi matérielle à absorber le flux de délinquants qui lui est présenté par une police qui fait ce qu'elle peut. Et donc aujourd'hui, quand vous avez en plus un ministre de l'Intérieur, moi je veux dire, je suis d'accord avec Ménard sur le fait que Darmanin, franchement c'est pas le plus mauvais, mais par contre il a commis à mon avis une grosse faute juste après l'élection présidentielle, la réélection d'Emmanuel Macron, c'est son mensonge, faut assumer le mot,
sur le Stade de France.
Au Stade de France, il s'est passé des choses extrêmement graves avec une délinquance violente provenant de groupes pour la plupart d'entre eux issus de l'immigration, qui ont fait des razzias, qui ont attaqué des gens extrêmement violemment. Ce fait qui a été nié dans un premier temps par le gouvernement et qui, curieusement, a été reconnu et qui a été nié, y compris devant une commission parlementaire, faut quand même le souligner, et qui tout à coup a été reconnu alors après les élections. Il y a une sorte de mea culpa très léger avec une pirouette en disant je me suis trompé, je suis désolé et allons-y, avançons. Mais où est passé le principe de responsabilité? Nous avons aujourd'hui un bilan en termes de violence sur le territoire français qui est catastrophique, des violences contre les forces de l'ordre, des refus d'obtempérer. Les policiers tirent tous les jours en France aujourd'hui. Franchement, c'est une énorme préoccupation et je pense que à tout moment on peut avoir un accident grave et je pense que c'est un des points sur lequel le gouvernement peut tomber. Ça, alors là, pour le coup...
tombé.
Ah oui, oui, je pense que si jamais un jour il y a un fait divers encore plus grave que les autres, c'est de nature à ouvrir une crise politique qui, pour le coup, peut aboutir à la chute du gouvernement.
Charles Consigny, sur la sécurité, le bilan Macron.
Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Thibault de Montbrial. Je pense que c'est le principal échec de son quinquennat. Et on a tous autour de nous, soit on le vit directement, soit on a des témoignages de gens qui se sentent, qui subissent l'insécurité, notamment les femmes, notamment dans les transports le soir ou même dans les rues de Paris le soir. L'insécurité à Paris et dans un certain nombre de villes comme Nantes, Marseille, d'autres villes, grandes villes comme ça françaises, c'est devenu un vrai fait de société et il est exact de relever que ça n'est pas traité. Moi, je pense qu'il y a eu une forme d'abandon sur ce sujet. Il est exact de dire, et ça n'est pas un propos qui doit prêter à polémique, qu'il y a un lien entre l'immigration et une certaine délinquance et une certaine criminalité, tout simplement parce que quand vous avez des gens qui arrivent en France et qui n'ont pas de travail, plus ou moins pas de logement, ils se retrouvent à commettre des actes criminels et délictueux pour survivre, ou pour ils se font embrigader, etc. Tout ça, c'est des choses qui existent. Et il est exact aussi de dire que la justice, elle est totalement dépassée par le volume qu'elle a à traiter, et donc elle écope un peu la mer avec une cuillère, la justice française. C'est d'ailleurs valable pour le pénal comme pour le civil. Et enfin, il y a un dernier point qui, moi, me semble important, qui est qu'il n'y a pas eu de politique sous ce quinquennat s'agissant des banlieues. Les quinquennats précédents se sont tous illustrés d'une façon ou d'une autre par une politique volontariste. Alors, on a vu que c'était rarement couronné de succès, comme quoi c'est un problème très difficile, mais sous Sarkozy comme sous Hollande, on a essayé de faire, et même d'ailleurs sous Chirac, on a essayé de faire des choses pour sortir les banlieues de leur situation. Sous Macron, moi j'ai observé plutôt une forme d'abandon, on a baissé les bras et on n'a rien tenté. Donc ce serait peut-être bien de faire quelque chose sur le sujet.
Gérald Darmanin est pourtant là sur le terrain en ce moment. Il dit que sur les points de deal, le trafic de stupéfiants, les policiers n'ont pas arrêté.
Oui, mais c'est pas une question, si je puis me permettre, ça n'est pas pour moi une question de répression. S'agissant des banlieues. C'est comment on fait, c'est toujours la même question, mais ça fait 40 ans qu'on la pose, hein, comment on fait pour que les jeunes qui rentrent dans la délinquance et la criminalité rentrent plutôt sur le marché du travail, dans des études supérieures, etc.
C'est la vraie question de société. Thibault de Montbrial.
Ouais, juste pour compléter l'échange, on est d'accord. Un mot quand même, un focus sur l'immigration. C'est aussi le grand échec de la politique d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire que les statistiques de renvoi des gens, c'est-à-dire leur accompagnement à la frontière, ce qu'on appelle les obligations de quitter le territoire, elles étaient déjà pas très nombreuses en 2017, ça s'est effondré. On est aujourd'hui à moins de 10% d'obligations qui sont exécutées. Et tout à l'heure, Charles Consigny rappelait la détresse des gens qui tentent régulièrement de rentrer en Europe de façon illégale et dernièrement encore à Melulla, à la frontière entre le Maroc et l'Espagne. Mais moi, je suis désolé, aussi dur que ce soit, la combinaison des efforts des gendarmes marocains, dont une centaine a été blessée d'ailleurs, incidemment ce jour-là, et des policiers espagnols, ce sont des combinaisons d'efforts qui sont faites dans l'intérêt de nous protéger et d'éviter que les vagues que nous ne sommes plus capables de contenir, pour les raisons dont Charles a parlé, et qui aboutissent en tout cas au quotidien à ce que la vie de nos compatriotes soit non seulement pourrie mais en danger, eh bien c'est la bataille aux frontières, parce que c'est une bataille qui a vocation à empêcher à ce que ce soit une bataille sur notre territoire.
Simplement, sauf erreur de ma part, simplement, il y a eu 10 morts, je crois, à cet endroit-là, à la frontière, lors de ces opérations. Et je suis désolé, mais plus des violences. Et je pense qu'on peut contrôler les frontières de l'Europe sans tuer les gens qui se présentent aux frontières.
Quand vous avez une horde de 800 personnes qui vous attaquent et que vous avez vous-même une centaine de blessés, le fait qu'il y ait des morts fait malheureusement partie des risques qui sont pris par les gens qui vous attaquent.
Enfin, 10 morts, c'est quand même.
Alors, Karim Zarebi et ensuite Alexandre Devecchio.
La question que vous posiez était inhérente à l'absence de confiance des Français concernant le bilan d'Emmanuel Macron en matière de sécurité et de justice d'ailleurs, hein, donc, parce que ça va ensemble et on a tort effectivement de séparer les deux sujets. La réalité, c'est qu'il y a un point faible qui est indéniable et les Français ont l'impression que cette question n'a pas été traitée. c'est même pas qu'elle ait été maltraitée, c'est qu'elle n'a pas été traitée. Quand vous faites un Beauvau de la sécurité, la dernière année de votre mandat, quand vous faites des états généraux de la justice, à 4 mois donc, du premier tour d'élection présidentielle, c'est que vous n'avez pas traité ce sujet. Ces enjeux-là, vous les traitez en début de quinquennat, avec des lois de programmation donc, à l'Assemblée nationale, qui font que chaque année, vous donnez des moyens aux forces de l'ordre, vous donnez des moyens à la justice pour traiter les problèmes, effectivement, de notre société. Cela n'a pas été fait. Alors oui, on a recruté plus de fonctionnaires de police, on avait un retard considérable, on n'a pas créé de places de prison, on n'a pas créé de centres d'éducation renforcée, fermée, je précise. Les centres d'éducation renforcée sont rarement fermés dans notre pays. Et donc, du coup, on n'a pas traité cette problématique. Et quant aux clandestins qui commettent des actes de délinquance et qu'on ne renvoie pas, je suis désolé de vous le dire, c'est un problème qui fracture la société française, non seulement sur les enjeux de sécurité, mais aussi sur des enjeux de cohésion. Parce que on peut avoir des Français qui ont tendance effectivement à se dire mais finalement on a trop d'immigrés alors qu'on a des immigrés qui travaillent, qui respectent les lois de la République, qui contribuent au développement du pays, mais ceux-là peuvent être confondus avec ces clandestins qu'on ne traite pas, qu'on ne renvoie pas dans leur pays. Et là, moi, quand je vois le président qui a laissé Gérald Darmanin faire le tour des pays du Maghreb en revenant quand même bredouille, il faut bien le dire. Pourquoi le président, à un moment donné, sur un sujet qui est éminemment sensible dans la société française, ne met pas ça à l'agenda de ses rencontres avec ses homologues? Le président tunisien, algérien, marocain, donc nous avons un problème d'OQTF qui ne sont pas respectés, vous ne nous donnez pas de laissez-passer consulaires, vous ne voulez pas reprendre vos clandestins, donc ça ne va pas fonctionner. Karim, il faut qu'on trouve un terrain d'entente. Ça n'est jamais à l'agenda. Quand il nous fait le scénario un peu cinéma devant Biden qui dit « J'ai appelé le président de l'Arabie Saoudite pour faire baisser le prix du pétrole », moi, j'aimerais qu'ils disent, à un moment donné, j'ai rencontré mes homologues pour leur parler, effectivement, du retour des clandestins.
Mais Karim, ça n'est pas fait. Karim, pour aller dans ton sens, c'est le dernier jour aujourd'hui de la présidence française de l'Union européenne. Il y avait là une occasion historique d'inscrire à l'agenda de l'Union européenne une véritable politique d'immigration et ça a été complètement passé, complètement laissé de côté. Vrai. Malgré, souvenez-vous, la crise à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie il y a quelques mois.
Qui était le prélude à ce qui s'est passé ensuite.
Beaucoup de choses,
Alexandre de Vecchio.
Beaucoup de choses très, très justes ont été dites. Il y a un point faible, c'est tout de même la justice. Je pense la justice, l'excès de droit aussi, parce que la question de l'immigration, c'est problème de droit individuel qui fait qu'on peut pas expulser les gens. Faut construire des prisons, mais aussi des centres de rétention, je pense, parce que ça a un effet dissuasif. Mais donc, dans les signaux que peut envoyer le président de la République, si le problème c'est la justice, c'est quand même de changer de garde des sceaux, peut-être prendre un garde des sceaux de droite, puisqu'il peut pas changer le ministre de l'Intérieur, qui à mon avis est décrédibilisé par le Stade de France, mais ce sera plus compliqué. Ça lui permettrait de s'adresser à la droite, ça c'est une chose, mais surtout à s'adresser au pays, parce que je crois que c'est un enjeu très important pour le pays et tous les Français.
Et de la réponse pénale, j'aimerais juste vous faire écouter un témoignage qui fait partie de ceux qui révulsent les Français, qui se disent mais en fait, notre justice ne fonctionne pas. Le témoignage d'une jeune femme qui s'appelle Karine, elle a été au procès de son agresseur, son violeur, qui a été condamnée à 6 ans de prison dans 2 fermes et qui est ressortie libre du tribunal. Elle est en larmes, elle témoignait ce matin sur CNews, écoutez-la.
Je rentrais du travail, en fait, un soir je rentrais du travail au restaurant que je fermais. Il devait être, je sais pas, à minuit. J'ai été abordée par un chauffeur de taxi qui me disait que c'était dangereux de se promener tout seul le soir comme ça et qui proposait une course gratuite pour me ramener chez moi. Et je vous l'ai fait assez rapidement parce que c'est un peu difficile. Pardon. J'ai même plus de larmes. Je suis désolée. Et en fait, une fois dans son taxi en bas de chez moi, un peu plus loin, et il m'a forcé à faire une fellation, et il a passé ses doigts partout, enfin bref, et pour lui, tout ça, c'était normal. Après, il m'a redemandé mon numéro de téléphone, il m'a laissé, et aujourd'hui, il dit qu'il comprend pas, parce que pour lui, tout ça, c'était consenti. Ça fait 25 ans qu'on m'élève en me disant que la justice de ce pays, elle est juste, elle sera juste. Donc oui, j'ai confiance en la justice, mais aujourd'hui, hier, elle nous a trahis. Et j'espère qu'elle va réparer ça, parce que je sais qu'elle est capable de ça aussi.
Voilà l'incompréhension et l'émotion de cette jeune femme qui ne comprend pas que son agresseur, son violeur, condamné à 6 ans de prison dans 2 fermes, Thibault de Mondrial, ressorte libre. Libre. Mais enfin,
écoutez, comment on peut faire ? Moi, vous savez que je ne suis pas précisément sur des lignes molles en matière de sécurité et de justice. Pour autant, je suis toujours très embarrassé pour commenter des décisions dont j'ignore tout. C'est effectivement, à entendre cette jeune femme, c'est effectivement dramatique. Maintenant, je suis toujours prudent.
Quand on a condamné à 6 ans de prison, dont 2 fermes,
mais si c'est pour viol,
on peut sortir libre. Enfin, expliquez-moi.
C'est techniquement.
Mais c'est un problème.
Mais c'est un problème.
Non, je crois qu'il est condamné à 6 ans, dont 2 avec sursis.
Oui, mais après,
donc 4 fermes. Oui, ça veut dire qu'il a fait de la détention provisoire.
Oui, mais si c'est 4 fermes pour le crime de viol, ce que c'est. Non, mais parce que c'est
peut-être aussi vous avez une agression
sexuelle. Ouais. Il faut, il y a
mais
un
je
ne
crois
faut...
pas qu'il sorte d'une cour d'assises.
Voilà.
J'ai pas l'impression.
On va juste écouter son avocate, à la jeune femme qui explique un tout petit
peu. Alors voilà, après, ce sera peut-être plus facile de vous répondre.
Écoutons l'avocate.
On espère que le parquet va faire appel de cette décision, parce que le parquet avait requis quand même 12 ans d'emprisonnement ferme. Donc vous imaginez qu'il en prend la moitié et uniquement 2 fermes et le reste en sursis probatoire. Donc c'est même, j'allais dire, un échec pour l'enquête, l'instruction. Ce monsieur a été mis en liberté dès le départ parce qu'il avait des garanties de représentation, alors que les faits étaient très graves. En gros, il faut savoir que dans ce dossier-là, il y a 12 victimes potentielles et il n'y en a que 3 qui se sont constituées partie civile.
Voilà. Est-ce que c'est plus clair, Thibault de Montbrillard?
Oui, c'est
non,
plus
c'est
clair.
Pas clair. Il a été en liberté tout de suite, mais pourtant, il sortirait immédiatement. Il sortirait libre. Il prend 4 ans ferme, il sort libre du tribunal alors qu'il n'aurait pas fait de détention provisoire. C'est pas possible. Il dit qu'il a été libre parce qu'il a des garanties de présentation.
S'il y a 12 ans requis, c'est que c'est les assises. Donc c'est effectivement techniquement un viol parce que parfois il y a des abus de langage. Et effectivement, à ce moment-là, avec l'explication complémentaire de l'avocate, ça semble assez choquant.
Mais ça a été bien. La défense.
Mais j'aurais été bien d'avoir l'avocat
on
de la défense.
On a 2 fois.
Je suis d'accord. Cela dit, pour sortir de cette affaire dramatique...
La réponse pénale.
La réponse pénale, malheureusement, de plus en plus, elle est insuffisante et elle est ressentie comme insuffisante à la fois par les victimes, mais aussi par les policiers qui se donnent beaucoup de mal pour amener devant les tribunaux les voyous qu'ils interpellent et qui, bien souvent, ont l'impression que leurs efforts sont...
Elle est d'autant plus insuffisante qu'un multirécidiviste. Moi, je trouve... Parce que c'est là que le bas blesse. Ouais. C'est-à-dire, on est encore trop dans le rappel à la loi. Quand vous voyez des délinquants sur le refus d'obtempérer, Charles, quand on regarde les profils, on voit qu'il y a beaucoup de multirécidivistes.
Moi, je suis pas d'accord, en un mot.
Il suffit de se rendre dans un tribunal correctionnel pour voir que la justice est très sévère. Je suis désolé de le dire aussi bêtement que c'est. Il suffit d'aller voir les comparutions immédiates à Paris et vous allez voir si la justice est laxiste. Je vous souhaite pas de comparaître en comparution immédiate
d'avoir
à Paris.
Participé à Punchline dans un instant sur CNews. Clélie Mathias et ses invités. Moi, je vous retrouve sur Europe 1 pour Punchline. Bonne soirée sur nos deux antennes.
Europe 1. Punchline. Laurence Ferrari.
On se retrouve sur Europe 1 pour nos débats de Punchline avec Bruno Jeudy de Paris Match. Bonsoir Bruno.
Bonsoir Laurence.
Alexandre Chevaux du service politique d'Europe 1. Bonsoir Alex.
Bonsoir Laurence.
Gilles Mintré, essayiste, bonsoir, et président d'Electis.
Bonsoir Laurence.
On va revenir sur l'événement aujourd'hui à l'Assemblée nationale. L'élection, pour être très précis, d'Éric Coquerel de la France Insoumise à la tête de la prestigieuse commission des affaires des finances, évidemment avec ce duel avec le Rassemblement national. On va d'abord écouter Éric Coquerel. Assez heureux d'avoir pu faire barrage aux autres forces politiques.
Il était essentiel que la NUP montre qu'elle était la plus grande force d'opposition. Je dis la NUP parce que je suis le président au départ, le candidat de la NUP. Même si après, je suis le président de la commission de toute la commission des finances. Mais donc c'était essentiel. Voilà, c'était aujourd'hui que ça se jouait. C'était pas hier. On a vu qu'il y avait ce qu'on a caractérisé comme des ententes entre la majorité, y compris avec le Rassemblement national. Aujourd'hui se jouait un enjeu à la fois pour nous, mais un enjeu démocratique. C'était absolument nécessaire, et de ce point de vue-là, moi je tiens à le saluer. Voilà, il faut le saluer de temps en temps, le fait que la majorité ne participe pas au vote. Pourquoi c'était nécessaire? Parce que ça voulait dire qu'elle ne s'arrogeait pas le droit de choisir son opposition. Et ça, c'était décisif pour la suite. Elle l'a fait, et je trouve ça plutôt positif.
Voilà pour Éric Coquerel. Bruno Jeudy, est-ce qu'il y a matière à un scandale sur ce vote-là, ou est-ce que ça s'est déroulé de façon tout à fait démocratique, comme les institutions ou les textes non écrits le prévoient?
Les textes non écrits, comme vous dites, encore qu'il y a un texte écrit, ont été respectés. C'est un membre. La commission revient d'abord à un membre de la
de l'opposition.
La commission des finances revient à un membre de l'opposition, puisque ça c'est ce qui ressort des textes. Ensuite,
mais ça aurait pu être le Rassemblement national.
Ça aurait pu être le Rassemblement national qui, en tant que parti, est le premier groupe. Mais la gauche a exhumé la NUPES pour désigner un seul candidat pour la NUPES. Et donc, ils se sont retrouvés majoritaires. L'autre respect aussi, ça a été que la majorité n'a pas voté. Elle aurait pu pour éventuellement empêcher M. Coquerel de devenir président, ce qui aurait sans doute donné un autre résultat. Mais à l'arrivée, l'arithmétique a été implacable. De toute façon, à partir du moment où la NUPES présentait un seul candidat et que les membres de la commission des finances issus de la NUPES votaient tous pour le candidat, ce qui n'était pas forcément gagné. On pourrait imaginer quelques socialistes. Bien, le résultat est logique à partir de ce moment-là.
Gilles Mintré, encore une fois, il y a beaucoup de réactions, mais finalement, ça s'est déroulé arithmétiquement, c'était écrit. C'était écrit qu'il serait élu, Éric Coquerel.
Absolument, hein. De toute façon, c'était les voix. 21 voix pour la NUP, 9 LR, 11 RN. D'ailleurs, même les fantasmes qu'on a entendu parler en disant « mais qu'est-ce qui se passe ?»
L'addition des voix n'aurait pas pu fonctionner.
Si les LR votaient avec le RN, dont il n'a jamais été question, mais même dans ce scénario-là, il n'y aurait... Hein, il y avait 21 voix pour la NUP. Donc, bon, pour une fois, moi, je suis d'accord avec Éric Coquerel. Ce sera peut-être la première et dernière fois de cette mandature. C'est une très bonne nouvelle démocratique. Tout a fonctionné comme ça devait fonctionner. C'est le résultat de l'importance du groupe et de NUP et des résultats des élections. Maintenant, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on a à la tête de la commission des finances quelqu'un qui a voté non à Maastricht. Bon, très bien, c'était effectivement la cote quand même... le sentiment d'une majorité de Français ensuite lors du référendum, quelqu'un qui était prêt à sortir de l'euro. Vous vous souvenez, c'était le fameux plan A, plan B de Mélenchon en 2017, en disant si on n'arrive pas à changer les traités, on sortira de l'Europe et de l'euro. Ils accusaient même Tsipras, l'extrême gauche grecque, d'être faible là-dessus, d'être pas capable d'avoir un plan de sortie de l'euro.
Il veut une sixième république.
Il continue à penser qu'il a une mission de combattre le néolibéralisme. Bon, ça, c'est très conceptuel. Je ne sais pas si, effectivement, la politique que compte mener Emmanuel Macron, peut-être avec le vote des LR sur l'économie, il peut être qualifié de néolibéral, mais en tout cas, lui, il voit ça comme une présence de combat. Donc, voilà, on va être dans un débat assez soutenu.
Assez ardu. Alexandre Chevaux, on voit aussi que là, dans cette première prise de parole, il veut rassurer, il prend du temps, il dit qu'il sera le président de toutes les sensibilités politiques aussi. Il essaie quand même de ne pas trop faire peur.
Oui, il dit alors pas de chasse aux sorcières, mais néanmoins, après, c'est aussi son droit et ses prérogatives. S'il faut travailler sur des sujets d'évasion fiscale, je crois que, je le cite, il dirait j'irai me servir.
Dans les dossiers fiscaux.
Oui, voilà. Mais pour des dossiers spécifiquement sur l'évasion fiscale. Après, sur la question de la légitimité de la présidence, effectivement, enfin, Bruno l'a dit, mais la question, c'est de savoir si est-ce que le principal groupe d'opposition, c'est le Rassemblement National en tant que tel ou la NUP. Mais dès lors que la NUP a présenté un candidat, effectivement, c'était plus légitime que la présidence leur revienne. Ce qui est assez intéressant quand même, c'est que le scrutin, les deux premiers tours se sont déroulés très très vite, avec le même nombre de voix, chaque membre de la commission a voté pour son candidat. Et entre les deux tours, ça a été dit et raconté, mais il y a eu trois suspensions de séance. Moi, j'étais aux quatre colonnes avec tous les autres journalistes. On s'est tous posé la question, est-ce qu'il y aurait un report de voix LR, RN, plus le groupe de Charles de Courson pour faire barrage à Éric Coquerel? Et ce qui a été visiblement plus envisagé, c'est la question d'une présidence tournante entre Éric Coquerel, Jean-Philippe Tanguy du RN et Véronique Louwagie des LR. Finalement, Coquerel l'a remporté assez logiquement.
Mais après, sur le fait qu'ils polissent un peu le discours, comme l'a fait le Rassemblement National, ils se disent, voilà, ils ne veulent pas faire peur, en fait, tout simplement, Bruno Vaugelis.
Oui, c'est vrai que, surtout Éric Coquerel, c'est quand même plutôt un insoumis assez radical. Là, il a plutôt un discours, je ne vais pas être l'ennemi public numéro un qui veut tout casser. Donc, il utilise l'expression de présidence de combat, mais c'est une expression qui est logique dans la bouche d'un opposant. Après, n'oublions pas les moyens, les pouvoirs dont dispose le président de la commission des finances. Il peut faire beaucoup de choses. Et bon courage au ministre de l'économie et à son ministre des comptes publics pour discuter les prochains textes budgétaires, collectifs budgétaires dès l'été, et surtout la loi de finances à l'automne. Ce sera un président de commission des finances qui peut beaucoup aussi ralentir la discussion.
Il a dit qu'il voudrait qu'on prenne le temps pour tous les amendements.
Non, mais là, c'est de toute façon, ça, le gouvernement s'y préparait. C'est une mauvaise nouvelle pour le pouvoir, pour l'exécutif. La victoire de
Ils ont laissé faire, hein.
Oui, ils ont laissé faire, mais c'était difficile pour eux de revenir sur un usage à l'Assemblée qui fait que depuis 2008, la présidence de commission revient à l'opposition. Ils ne pouvaient pas revenir là-dessus. C'était impossible. C'est le résultat aussi des élections législatives.
Alors, il y en a une qui est évidemment pas contente, c'est Marine Le Pen. On va l'écouter. Elle trouve que cette élection est dramatique.
Je la juge dramatique pour le pays. Parce que je pense que laisser l'extrême gauche de l'extrême gauche à la tête de cette commission, qui est une commission extrêmement sensible, est un signal qui est un signal inquiétant pour l'avenir. Les Républicains portent une responsabilité intégrale dans cette situation. Ils le savent bien d'ailleurs, car ils avaient la possibilité de faire autrement. Ils ont refusé l'accord qui avait été envisagé et qui permettait, grâce à une présidence tournante, d'éviter précisément de confier cette place si sensible à M. Éric Coquerel.
Elle tape là où ça fait mal, Marine Le Pen. Elle dit les électeurs de droite, ils en voudront au LR d'avoir laissé faire. Gilles Matry.
Non, je suis pas sûr. Enfin, le RN se nourrit.
Que certains électeurs ne seront pas très contents de voir arriver la France Insoumise
sûr,
à la tête de la Commission des Finances.
Mais vous voyez bien, Laurence Ferrari, que le RN en permanence, son meilleur ennemi, c'est toujours la France Insoumise. Et le meilleur ennemi de la France Insoumise, on l'a vu au moment de cette encore, lorsqu'il y avait eu l'élection de la présidence, le refus de serrer la main, etc. Bon, c'est le meilleur ennemi de la France Insoumise, c'est le RN. Ça nous rappelle les années 30 à Weimar, hein, je veux dire, où en fait l'extrême droite et l'extrême gauche n'existaient que l'un par l'autre. Alors Marx disait l'histoire est sérieuse la première fois, c'est une farce la seconde. On espère que là, en tout cas, que ce soit une farce, c'est qu'effectivement, le vrai travail qui soit sur les textes soit pas un travail d'invectives systématiques de LFI et de RN, parce qu'il y a des textes à proposer, que probablement les majorités qui se constitueront seront pas dans ce combat entre LFI et le RN, et que voilà, des majorités raisonnables se créent sur des textes.
Bruno Jeudy, les LR auraient pu la jouer autrement pour cette élection ou pas ?
Difficile pour les LR là. D'abord numériquement ils peuvent difficilement peser. On le voit bien là sur l'arithmétique, c'était compliqué. D'ailleurs on voit bien dans la réaction de Christian Jacob, c'est honte à la majorité de ne pas avoir voulu empêcher l'élection d'Éric Coquerel. Donc ils sont quand même, leurs marges de manœuvre sont quand même assez limitées. Les Républicains vont avoir un rôle plus important, non pas sur la répartition des postes, où ils ont vu les trains passer, ils ont juste sauvé la questure et sacrifié, fait réélire Éric Ciotti à la questure et sacrifié Annie Genevard à la vice-présidence. Ils ne pouvaient faire que ça. Ils auront un rôle plus important, pour le coup, parce qu'ils sont 61, pour
voter
faire des majorités avec... des majorités ou pas avec l'exécutif. Là, ils auront un rôle important. Sur la répartition des postes, ils étaient spectateurs. Quand même.
Oui. Ils étaient impuissants, Alexandre Chauveau aussi, les LR.
C'est ce que les députés, les membres de la commission des finances disaient déjà hier. Mais j'ai l'impression que ça les arrangeait bien aussi d'être finalement en troisième ou quatrième position dans cette commission, parce que ça leur permettait de dire de toute façon, c'est pas nous qui déciderons qui feront pencher la balance dans un sens ou dans un autre, et de reporter la responsabilité sur la majorité en disant à la majorité, si vous ne voulez pas d'Éric Coquerel, alors c'est à vous d'aller voter pour Jean-Philippe Tanguy, chose que la majorité n'a pas faite.
Allez, on fait une toute petite pause, on se retrouve tous les trois dans un instant sur Europe 1. On écoutera justement la réaction des LR, Véronique Louwagie, sur cette présidence de la Commission des Finances. A tout de suite sur Europe 1.
Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari.
On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec Bruno Jeudy de Paris Match, Alexandre Chauveau d'Europe 1, Gilles Mintré, président d'Electis. On va écouter la candidate LR Véronique Louwagie à la Commission des Finances.
Monsieur Coquerel, vous pouvez remarquer.
Il a remercié.
Il a remercié. La première chose qu'il a fait, c'est qu'il a remercié la majorité de ne pas avoir participé au vote. Donc, véritablement, il a constaté effectivement que son élection résultait du choix qu'a fait la majorité de ne pas participer au vote.
C'est pas à la majorité de choisir l'opposition ?
En 2007, tous les commissaires aux finances avaient participé au vote.
Voilà pour la réaction de Véronique Louwagie. Un dernier mot là-dessus ou pas, Gilles Matré, on passe au gouvernement ?
Non, mais
futur.
Non, mais Louwagie a vu qu'il y avait peut-être un trou de souris ou passé en se disant que voilà, dans le refus de la NUP, il y avait peut-être une chance pour que on se dise finalement une commission LR, ça reste l'opposition et puis c'est acceptable. Mais c'est vrai que démocratiquement, ça ne représenterait pas la logique de cette nouvelle Assemblée nationale quand on voit les forces en présence. C'était que ce soit évidemment la NUP. Une fois, c'est démocratique. On peut le regretter sur le fond, redis. Ça va être, c'est pas une bonne nouvelle pour le pays, mais c'est la lecture démocratique de cette Assemblée.
On avance. Le gouvernement, c'est pour la semaine prochaine. Elisabeth Borne va faire son discours de politique générale mercredi et non pas mardi. Elle se donne 24 heures pour le jeudi pour peaufiner la copie de ce futur gouvernement. Preuve c'est compliqué.
Hein. Preuve que ça flotte.
Oui, c'est compliqué, visiblement. Vous avez des informations de l'intérieur?
D'abord, on repousse d'une journée le discours de politique générale de la Première ministre. Sur le fond, nos auditeurs peuvent dire « c'est pas grave ».
C'est pas grave.
Mais ça traduit quoi? Ça traduit... c'est 70 jours qu'Emmanuel Macron a été réélu. Les législatives sont passées déjà il y a un moment. Il n'y a pratiquement pas eu de conseil des ministres. Là, il y a un gouvernement à former. On voit que c'est difficile de le faire parce qu'évidemment, Mme Borne, après ses consultations, essaie d'élargir. Bon, ils vont sans doute mettre pas mal d'horizons et de modems parce qu'il faut calmer les alliés. Mais elle essaie aussi de trouver plutôt des élus locaux LR que des députés, parce qu'on voit bien que les députés, il n'y en a aucun qui veut monter dans le bateau. Peut-être quelques amis de François Rebsamen, ancien ministre socialiste, qui a quelques troupes. Donc il faut aussi que ce gouvernement reflète un peu plus, s'élargisse. Donc c'est difficile. Emmanuel Macron n'était pas là de la semaine, il rentre demain.
Oui, donc tant qu'il n'est pas là, rien ne se fait.
Donc du coup, il lui faut du temps pour... Il y a 2-3 cas à régler. Damien Abad.
Pour régler. Rester avec une plainte pour tentative de viol.
Sur le papier, Elisabeth Borne, elle avait fixé une ligne rouge. Une nouvelle plainte, il ne peut pas rester. On va voir ce que va décider Emmanuel Macron. Moi, je pense que c'est du 50-50. Ça sera aussi un test pour l'autorité de Madame Borne. Il y a beaucoup de... Et comme d'habitude, ça ne va pas être simple à faire ce gouvernement. Il veut faire un conseil des ministres avant le discours de politique
générale. Donc mercredi matin.
Politique générale, voilà. Donc plutôt mercredi matin. C'est pas sûr qu'il y ait le texte pouvoir d'achat dans ce conseil des ministres. Il pourrait être reporté après le discours de politique générale. Donc il y a sa flotte, il y a du flou, c'est compliqué. Et on voit que Emmanuel Macron est en train de comprendre aussi que le pouvoir est passé de l'autre côté de la scène et qu'il va être beaucoup au Parlement. Il y a des ministres qui expliquent qu'il faut sans doute plutôt... Le changement de méthode, c'est faire des textes moins larges, plus resserrés, travailler en amont avec les groupes politiques, parce que ça ne votera pas au canon. Donc on arrive avec le texte ficelé et on veut le faire voter, ça passe pas. Donc il faut peut-être s'y prendre autrement. Il y a des ministres qui déjà y réfléchissent. Gérald Darmanin, il a bien compris que son texte sur d'orientation sur la sécurité, ça passera pas comme ça. Donc il y a beaucoup de choses à revoir. Et Elisabeth Borne, sur ses consultations, elle a surtout mesuré un peu sur les grands textes qui vont venir. Qui s'abstiendra, qu'est-ce qu'il faut reprendre comme amendement pour que ça passe. On rentre dans la mécanique de la majorité relative. Et là, il n'y a pas de carabistouille. Il faut discuter de gré à gré. Relisons notre histoire de Michel Rocard, qui, lui, l'a fait pendant 3 ans. Avec succès.
Alexandre Chevaux, évidemment, il va falloir trouver le bon casting et puis surtout la bonne façon de procéder, comme vient de dire Bruno jeudi.
Oui, comme l'a dit Bruno, je pense qu'elle va ouvrir. Enfin, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne vont ouvrir peut-être un peu à droite, peut-être un peu à gauche. Ce qui va être intéressant aussi, c'est la question de la confiance. Est-ce qu'Elisabeth Borne va demander la confiance mercredi à l'Assemblée ?
C'est-à-dire un vote.
Un vote de confiance, à l'Assemblée. Elle n'est pas obligée de le faire, mais tous les gouvernements s'y sont soumis depuis 1993.
Oui, 1993, oui.
Et en fait, si elle ouvre un peu à droite, un peu à gauche, elle peut prendre à témoin les Républicains et, on va dire, l'aile modérée des socialistes en disant « je ne présente pas confiance, si vous ne la votez pas, je suis obligé de démissionner, vous serez quelque part responsable de la pagaille qui va suivre ». Et sinon, elle peut effectivement ne pas la demander, auquel cas, la NUPES a déjà indiqué qu'elle déposerait une motion de censure. Motion de censure dont personne n'est sûr qu'elle sera votée, et ce qui pourrait paradoxalement renforcer la légitimité d'Elisabeth Borne en disant « j'ai survécu à une motion de censure, donc je suis légitime pour gouverner ». Je ne sais pas si vous m'avez
donc
suivi.
Donc ça serait motion de censure et vote de confiance, ou ce serait l'un ou l'autre ?
Alors, soit elle demande la confiance, si elle l'a, elle est légitimée, elle peut continuer à gouverner. Si elle ne l'a pas, elle démissionne. Soit elle ne demande pas la confiance de l'Assemblée, auquel cas la NUP dépose une motion de censure.
C'est
qui peut
ne pas être votée. Ou l'autre, c'est pas l'un, c'est pas fromage et dessert. Jean Madré, votre analyse de la situation.
Non, mais le gouvernement, finalement, l'enjeu est bien moindre que si jamais l'écart avait été limité en termes de pour atteindre la majorité absolue, parce que il y a nommé au gouvernement pour s'attirer des voix, c'est une longue pratique, mais là l'écart est trop fort, donc il y aura, comme l'a dit Bruno jeudi, il y aura de Horizon, il y aura du Modem, il y aura peut-être des prises
chez des divers droits, des LR, mais ça ne changera pas du tout l'arithmétique à l'Assemblée. D'aucune façon, ça ne ralliera pas des groupes pour voter une quelconque loi. Donc, on voit que Elisabeth Borne, malheureusement, elle est à l'essai. Hein. Un Premier ministre, c'est toujours un fusil, mais là, particulièrement, parce que la logique aurait été de la remplacer après le second tour législatif, de manière certaine. Enfin, il y a un message politique qui a été envoyé, il y a un désaveu du président de la République. Normalement, la réaction
oui,
normale.
C'est faire sauter le fusible, comme
voilà, c'est faire sauter le fusible pour un nouveau Premier ministre. Mais là, on voit pas qui. Ça aurait été logique de réorienter plus à droite, puisqu'on voit que c'était que c'est vers là qu'on va chercher à voter des lois. Mais on sent qu'Emmanuel Macron a envie quand même de tester un petit peu, de voir ce qui se passe, d'avoir ce fusible pour pouvoir rejouer une cartouche peut-être très vite, si dès la loi sur le pouvoir d'achat, il y a un problème, ou peut-être plutôt dans 6 mois, si, comme il est plus probable, on trouve des majorités pour voter certains textes, mais qu'à un moment, ça se grippe.
Bruno Joly.
Bon, d'abord, pour moi, je pense qu'Elisabeth Borne dispose quand même de quelques atouts. C'est vrai que sur le papier, elle n'a pas le bon CV. Faudrait
elle a surtout pas le bon positionnement politique.
Le positionnement politique est quand même moins. Elle vient de la gauche, mais elle a quand même fait voter deux des réformes les plus libérales sous le quinquennat précédent. Donc, elle montre aussi beaucoup de souplesse. Emmanuel Macron nomme quelqu'un de droite. Pour se faire simple, Bruno Le Maire ou Gérald Darmanin. Vis-à-vis des Républicains, c'est aussi un chiffon rouge, parce qu'on sait que, notamment, la jeune garde et l'air qui est... Parce que ce qui compte, c'est les députés. Hein. C'est pas forcément Jean-François Copé, machin, qui parle à la télé, à la radio. OK, mais eux, ils sont pas à l'Assemblée. Et ce qui compte, c'est ceux qui sont à l'Assemblée. Et ceux qui sont à l'Assemblée, ils sont pas très souples, ils sont très remontés, surtout contre ceux qui sont partis chez Emmanuel Macron. Donc ça, c'est pas facile. De ce point de vue-là, Madame Borne, elle est un peu plus neutre. Elle peut, à mon avis, peut-être jouer comme le faisait en son temps Michel Rocard, avec ses majorités stéréophoniques, c'est-à-dire peut-être un coup à gauche, un coup à droite. Faut voir si ça fonctionne. Moi, mon inquiétude, c'est est-ce qu'elle dispose des bons conseillers pour ça. Michel Rocard, il avait un conseiller qui s'appelait Guy Carcassonne à l'époque, éminent constitutionnaliste. Très efficace dans cette période-là parce qu'il connaissait très très bien le personnel du Parlement. On est entre technos, pas forcément toujours là. Je crois qu'elle a recruté un conseiller parlementaire qui est un énarque. Rien contre les énarques, mon cher Gilles Mintré, mais bon, je ne sais pas si c'est forcément... Voilà, qui sera les personnes qui appuieront sur les bons boutons pour faire voter les textes et obtenir faire de l'abstention pour faire passer les textes. Voilà, c'est ça qui m'inquiète plus. Voilà, après, de toute façon, Macron, il n'a pas 36 possibilités, il est soumis à cette majorité relative.
Alexandre Chauveau, sur cet équilibre qu'il va falloir trouver.
Non, mais c'est pour rebondir sur ce que disait Gilles Mintré, c'est vrai que le fait qu'il y ait une tripartition à l'Assemblée... Alors effectivement, il y a peut-être un léger rééquilibrage à droite qui serait pertinent, mais on a du mal à voir les personnalités qui pourraient émerger. Et de manière générale, j'ai l'impression qu'il y a une certaine lassitude, un essoufflement. Il y a autant pour la formation du premier gouvernement du second quinquennat, il y avait nous-mêmes, on cherchait quelles personnalités pouvaient entrer, quelles entrées pouvaient être fracassantes, enfin disruptives, amener quelque chose en plus. Là, on a l'impression que Emmanuel Macron a utilisé toutes ses cartes et que on est arrivé au bout de quelque chose et on a du mal à voir quelles cartes il pourrait sortir à nouveau maintenant pour sortir de l'impasse.
C'est pour ça qu'il se donne un peu de temps sans doute pour essayer de créer un peu de surprise et jouer sur un effet nouveauté dans ce gouvernement. Alors, il va peut-être nous sortir des lapins de son chapeau, là, qui pourrait surprendre et un peu recréer, parce qu'il faut recréer un petit peu d'élan, là, puisqu'en
oui,
fait,
il est
complètement à l'arrêt. Donc, il y a peut-être dans la formation du gouvernement des personnalités, des grands élus locaux, LR, qui pourraient venir. Il y a des noms qui tournent, bon, on verra
Jean
bien.
Rottener.
Voilà, oui, après, voilà, il faudra bien.
Ils ne pèsent pas forcément très lourd politiquement, sans leur faire offense. Ils gèrent très bien leur région, ils ont été élus, réélus.
Oui, mais enfin, ils représentent un territoire, quand même des gens qui sont installés. En plus, Jean Rottener, je ne sais pas du tout s'il rentrera, mais enfin bon, il a été très présent pendant la gestion du Covid. Il est lui-même médecin. Je ne sais pas, ça peut faire un médecin d'un ministre de la Santé.
Gilles Mintré.
Non, moi, je continue à penser que cette carte d'un nouveau Premier ministre aurait été une façon pour Emmanuel Macron de sortir par le haut de cette crise. Évidemment, il aurait fallu trouver qui est cette personne. Et là, on vient de se. Voilà, on voit bien autour de cette table qu'on ne trouve pas spontanément ce nom. Mais peut-être précisément, c'était ça le qu'aurait été le génie d'Emmanuel Macron, c'était de sortir quelqu'un. Voilà, on pense qu'on veut de Raymond Barre, mais quand vous souvenez, quand Valéry Giscard d'Estaing s'est trouvé dans une situation qui était là aussi similaire, puisqu'il s'était retrouvé, il n'avait plus la majorité absolue, lorsque Jacques Chirac a repris son autonomie, vous vous souvenez, en 76. Et bah bon, voilà, Raymond Barre, on ne l'attendait pas, et finalement, il s'est avéré à la fois économiste et puis habile politiquement. Bon, là, il aurait pu jouer cette carte-là. Et c'est vrai qu'on sent, c'est comme toujours depuis le début, Emmanuel Macron, il a un problème avec la notion de numéro 2. Voilà, il a un problème, et il aime bien Jean Castex, Elisabeth Borne, quand finalement, c'est des profils un peu plus technocratiques, qui sont là pour exécuter des politiques. Il aurait fallu autre chose, là, je pense.
Vous êtes d'accord avec François Bayrou qui réclamait un profil très politique.
Il le réclamait pour lui-même.
En autoportrait. En autoportrait. Je sais pas. Moi, j'arrive pas à dire que là, aucune chance, Elisabeth Borne. Il faut voir. Il faut voir comment elle peut ensuite négocier les textes. Il faut voir surtout l'autonomie que lui laisse Emmanuel Macron. Je pense que c'est ça qui va beaucoup se.
Est-ce qu'il va décider de la laisser vraiment sur les textes et lui se réserver l'international, peut-être comme il le fait actuellement.
Ce serait sans doute quelque chose à tenter, mais je ne sais pas si Emmanuel Macron peut se réinventer comme ça. Et puis, il y a aussi également quand même un équilibre dans l'équipe. Au fond, depuis les législatives, beaucoup de messages de gauche qui ont été envoyés, les signaux vers la droite, il n'y en a quand même pas beaucoup. Là, je rejoins Gilles Mintré. Et il faut aussi traduire ce qu'est cette assemblée. C'est-à-dire que, bon, voilà, si Macron veut gouverner avec davantage, parce que aujourd'hui, ses marges, elles sont plutôt du côté des LR, s'il veut gouverner davantage du côté droit, il faut qu'il envoie des signaux vers la droite.
On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur Europe 1. On évoquera les premières réformes qui pourraient arriver devant le Parlement cet été. Pouvoir d'achat, projet de loi de finances rectificatives et pourquoi pas la réforme des retraites. À tout de suite.
Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari.
Et sur Europe 1 avec Bruno Jeudy de Paris Match, Alexandre Chauveau d'Europe 1, Gilles Mintré, président d'Electis et essayiste. Alors les grands textes, qu'est-ce qui va arriver en premier? Vous avez émis un doute, Bruno Jeudy, sur le fait que même la loi pouvoir d'achat pourrait être présentée là en Conseil des ministres. Alors, pourtant, c'est là-dessus que les Français
attendent. Elle arrivera, c'est une question de Conseil des ministres, puisqu'elle doit être soumise au Conseil des ministres, sans doute pas le prochain, peut-être le suivant. De toute façon, le texte est prévu, programmé à l'Assemblée nationale le 18 juillet. Il vient devant la Commission des finances, puisqu'il commence son parcours parlementaire, qui est long en France, devant la Commission des finances le 18 juillet, puis examiné en séance plénière dans la foulée. De toute façon, c'est un texte qui ne peut pas être voté s'il est voté avant le début août.
D'accord, mais il faut que l'argent promis, là, les 100 euros à 9 millions de Français, arrive. Alors, sur les comptes.
Tout ne relève pas du législatif dans ce texte. Il y a des choses qui relèvent du décret, il y a des choses qui relèvent de la loi. Mais c'est vrai que ce sera un test politique, ce texte. Qui le votera, qui s'abstiendra. On a déjà une petite idée de ce que vont dire les uns et les autres. C'est pas assez, ça va être le refrain. Hein. Ça va être le refrain du côté de la NUPES. Du côté du RN, ça va être c'est pas la bonne méthode, nous on veut
baisser la TVA.
Voilà. Et puis du côté des LR, on connaît aussi la chanson qui va être entonnée, c'est halte au chèque.
Voilà.
Il arrose le sable.
Aux dépenses publiques.
Attention aux dépenses publiques. Une fois qu'on a dit tout ça, je demande à voir comment un député vote contre un texte de ce type-là. Parce que c'est quand même aussi beaucoup de Français. Qui attendent ces chèques et qui, au-delà des problèmes de dépenses publiques, au-delà des problèmes macroéconomiques, ils ont aussi des urgences.
D'accord, parce que Gilles Mintré, quand les députés retournent dans leur circonscription, ils se retrouveront face à leurs électeurs, à qui ils devront dire pourquoi ils n'ont pas voulu que cette aide de 100 euros leur soit versée. Et là, on rentrera dans le dur.
Bien sûr, c'est pour ça que c'est l'urgence, hein, avec, avec maintenant le prix de l'essence à plus de 2 euros à la pompe, voilà, les fins de mois difficiles pour les milieux populaires, mais pour les milieux modestes, pour les classes moyennes. Donc c'est le sujet urgent et c'est le sujet néanmoins le plus difficile parce que c'est là-dessus que la NUP, la majorité présidentielle et les LR ont les philosophies économiques les plus orthogonales, les plus différentes. La NUP veut faire du contrôle administré des salaires en disant voilà, c'est l'État qui décide et on va décider d'augmenter les salaires. D'une logique tout à fait centralisatrice et administrée. La majorité présidentielle veut continuer avec ses chèques. Alors, des chèques, c'est le chèque à 100 euros, c'est pas le plus cher. Hein, le chiffrage était à 1 milliard. C'est la remise de 15 à 18 euros à la pompe, ça a déjà coûté 3 milliards.
Centimes d'euros. Si c'est 18 euros,
ça risque d'être. Oui, ça, c'est vraiment Noël. Ouais. Non, mais centimes
d'euros. Noël en juillet.
Ça fait déjà, Noël en juillet, ça fait quand même 3 milliards. Le plafonnement des prix de l'énergie, de l'électricité et du gaz, 14 milliards. La revalorisation des retraites pour suivre l'inflation, ce qui était évidemment logique, enfin 6 milliards et demi, 8 milliards sur les minima sociaux. Donc on voit que l'addition, elle est très élevée. Et il y a la troisième philosophie, les LR, qui disent, dans le fond, tant qu'à faire ce chèque-là, il ne faut pas le faire en dépenses publiques, il faut le faire en réduction d'impôts, parce qu'au moins, c'est la logique, c'est une logique plus de marché, qui est de dire, ça va libérer la consommation. Bon, on voit que c'est pas simplement pas se mettre d'accord sur une mesure, c'est trois philosophies différentes, mais malheureusement pour Elisabeth Borne, il va falloir qu'elle attaque directement ces divergences dès la première loi.
Alexandre Chauveau, elle a déjà dû, d'ailleurs, en recevant les différents leaders, tâter le terrain sur cette loi pouvoir d'achat.
Oui, elle reçoit, c'est la dernière à passer Mathilde Panot ce soir à 20h. Elle aura reçu donc
de
la France Insoumise, tous les présidents de groupe à l'Assemblée. La question, effectivement, c'est celle du financement. Et la question, c'est de savoir où, à partir de quel seuil, la NUP, le RN et LR vont quand même accepter de voter la loi. Parce qu'effectivement, quand ils vont retourner devant leurs électeurs, il faudra rendre des comptes. Et ça pourrait entraîner plus rapidement que prévu, dans l'éventualité où il y aurait un refus de ces groupes-là, la fameuse dissolution qui plane un peu comme une épée de Damoclès au-dessus de l'Assemblée. Elisabeth Borne pourrait prendre à témoin l'opinion en disant, regardez, même les chèques, les questions de pouvoir d'achat ne sont pas votées dans cette assemblée, je ne peux pas gouverner, donc je dissous.
Je ne crois pas beaucoup à l'option de la dissolution, mais bon.
Moi non plus. Je pense que sur ce texte, l'exécutif a les moyens de le faire passer, au moins par l'abstention. Alors ça va être compliqué, l'abstention, parce que les groupes les LR pourront pas s'abstenir sur tous les textes, donc à un moment il faudra voter pour ou contre. Mais je pense que sur un texte comme le pouvoir d'achat, même si ils prendront leur distance avec beaucoup des mesures, chacun à l'arrivée, il y aura soit abstention, soit un vote pour certains. C'est difficile de voter contre dans le contexte d'augmentation des prix très forte. Ça flotte sur le plan politique, mais ça flambe dans les supermarchés. Donc c'est ça qui compte le plus. Et à mon avis, les députés le savent bien. Ils l'ont entendu sur les marchés pendant leur campagne. Moi, je pense que ce texte-là, c'est pas le plus.
Cette
réserve près, peut-être, Bruno, je dis que précisément. La NUP propose évidemment un paquet pouvoir d'achat beaucoup plus élevé que le gouvernement, mais paradoxalement les LR aussi, parce que finalement le chiffrage, et d'ailleurs c'est ce que dit Bruno Le Maire, le chiffrage des mesures fiscales des LR est plus élevé. Donc il y a une possibilité pour les députés des deux bords de dire écoutez, on n'a pas voté parce qu'en fait on voulait beaucoup plus, c'était quelque chose au rabais. D'accord. Et il y a probablement besoin pour Emmanuel Macron, pour Elisabeth Borne, de prendre certaines des mesures. Alors peut-être pas des deux, parce que je pense qu'ils peuvent effectivement avoir une majorité sans la NUP, mais il va falloir prendre certaines des mesures.
Mais c'est ça le travail d'Elisabeth Borne, de son ministre des Relations avec le Parlement, Olivier Véran,
des ministres... Ils sont aussi bien avec les autres parlementaires.
Oui, mais ça va être ça leur travail, ça va être d'accepter dès le départ de ne pas amender le texte. Ils ne prenaient même pas les amendements. Non, là, ils vont être obligés de prendre des morceaux. C'est pour ça qu'il faut discuter en amont sur le texte. Je ne sais pas ce qui se passe actuellement sur le texte du pouvoir d'achat, mais forcément, Elisabeth Borne, dans ses consultations, elle a déjà dû mesurer ça c'est possible, ça c'est pas possible, ça je peux prendre, donc l'intégrer tout de suite dans le texte. Enfin, c'est une discussion, c'est une façon de faire la loi totalement différente de ce que nous venons de vivre depuis la mise en place du quinquennat, et je dirais même quasiment depuis, hors période cohabitation, depuis 88, quoi. Donc... on revient à cette époque-là où, au fond, la fabrique de la loi revient à l'Assemblée.
Après la loi pouvoir d'achat, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'il n'y avait pas un projet de loi sur le sanitaire qui était dans les cartons ?
Ah, il y a un projet de loi sur le...
Avec l'épidémie qui repart.
Voilà, il y a un projet de loi sur le sanitaire. Là, pour le coup, on ne sait pas trop ce qu'il veut mettre dedans, parce que, de toute façon, on n'a pas de ministre de la Santé, donc on a peu de communication, mais forcément, la question va se poser à l'heure de la 7e vague. Après, il y a le collectif budgétaire, donc qui est... pour nos auditeurs, qui en fait, en gros, il faut revoter un bout de loi de finances parce qu'on a dépensé beaucoup plus d'argent. Et puis, il faut financer
les nouvelles promesses.
Les quelques 25 ou 26 milliards de plus qui s'ajoutent déjà aux 26. En gros, on est à 55,
début de l'année.
En gros, on est à 55 milliards de dépenses sans doute supplémentaires. Donc voilà, il faut les financer.
Gilles Mintré, comment faire rentrer tout ça dans le cadre de nos dépenses publiques ? Comment faire... comment maîtriser nos dépenses publiques avec toutes ces promesses qui vont flamber, hein, parce que s'il faut aller chercher à droite et à gauche...
Non, bien sûr, c'est l'équation impossible. C'est pour ça aussi que C'est là où on voit la vraie difficulté, hein, qui va être celle du gouvernement. C'est que un gouvernement qui a sa majorité peut construire une stratégie de dépense en l'appuyant sur une stratégie d'économie, en disant voilà, c'est ce que on refixe des priorités, et puis par ailleurs on va faire des économies, on va à la fois sur la modernisation de l'État, sur la réflexion sur un certain nombre de politiques publiques. Et là, il va falloir faire un peu au cas par cas, puisqu'on a dit qu'on allait être texte par texte. Le problème du texte par texte, c'est qu'à un moment, il faut faire la synthèse de tout ça, hein, et comment est-ce qu'on fait le cadre budgétaire. C'est pour ça qu'il va être vital pour Elisabeth Borne d'avoir, non pas, elle n'aura pas d'accord de coalition ni d'accord de programme, mais au moins un calendrier, un paquet de textes pour que tout ça fasse du sens, parce que sinon, on va juste collectionner des textes.
Alexandre Chevaux.
Mais effectivement, on va voir la nouvelle méthode de gouvernement à l'œuvre, la capacité d'Elisabeth Borne à trouver effectivement des compromis. Je pense que effectivement sur la question du pouvoir d'achat, c'est possible. Après, sur la question des autres réformes, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il depuis l'élection d'Emmanuel Macron, il ne s'est pas passé grand-chose. Par exemple, la réforme des retraites, on sait que si elle n'est pas votée, en tout cas si elle n'est pas présentée à l'automne, enfin la première année du mandat, c'est très compliqué ensuite de la faire passer. Et en fait, on en revient presque au programme d'Emmanuel Macron, dans lequel il y avait finalement pas grand-chose quand on fouille un petit peu, qui était une version améliorée du programme de Valérie Pécresse. Et derrière, il se retrouve avec un certain essoufflement et une en panne d'idées, quoi.
Mais de toute façon, ils vont quand même vite être rattrapés par la patrouille. Hein. Le gouvernement n'a pas encore présenté à la Commission européenne son programme de stabilité des finances publiques. Donc, on en saura un peu plus à ce moment-là, quand ça aura été fait. Sachant que, c'est vrai, je rejoins... Il n'a pas dit grand-chose, Emmanuel Macron. Il a quand même dit deux choses. Un, il veut le retour au 3% en 2027. Deux, en gros, la seule économie dans son programme, c'est la réforme des retraites, 64 ans ou 65 ans. Donc, s'il ne fait pas ça, là...
Et là, comment il le fait passer? Grâce au LR, la réforme des retraites.
Il a pas le choix. La réforme des retraites, il faut la négocier avec les... S'il veut la faire, il n'y a qu'avec les LR qui peut la négocier. Et pour le coup, ce n'est pas un en même temps. Là. Donc...
Et ça tombe bien, ils étaient d'accord, parce que
ils sont 65 ans étaient sur la aussi...
À l'époque, Valérie Pécresse disait il m'a volé mon
programme. Le
président photocopieur. D'accord. Voilà. Donc oui, c'est là-dessus qu'il y aura un terrain commun. Mais une fois de plus, je pense que la question, c'est comment tout ça rentre dans une équation quand même pensée à l'avance. S'il a besoin des LR pour voter le pouvoir d'achat, puis pour voter les retraites, évidemment que les LR vont dire, bon, mais très bien, mais quelle est l'équation budgétaire d'ensemble? On rappelait il y a quelques jours qu'il a un 49-3 pour faire passer le budget.
Un seul,
voilà.
Par session.
Oui. Non, il a un 49-3 sur le budget,
oui.
Et puis par ailleurs, il a un 49-3 pour un autre texte.
Mais là, par exemple, il peut
faire un 49-3 sur son collectif budgétaire.
Voilà. Moi, je croyais qu'il n'y avait qu'un seul 49-3.
Il peut refaire après, dans la session ordinaire sur la loi de finances, il peut refaire un...
Il y a le 49-3 budgétaire et puis il y a le 49-3 sur un autre texte. Mais du coup, les LR ne vont pas accepter qu'on vote des textes qui peuvent engager des dépenses, mais qu'en revanche, le jour où on va voter le budget, alors là, ce sera sans eux, parce que ça sera en 49-3. Voilà. Donc il y a quelque chose dans une forme quand même de planification de l'ensemble de ces dépenses qui va se poser très rapidement sur la table.
En tout cas, ça sera passionnant, parce qu'on va redécouvrir le fonctionnement du Parlement, on va redécouvrir une nouvelle façon de gouverner, ouais. Et peut-être que finalement, comme le disait François Bayrou, ce sera stimulant.
Bah, on verra, c'est-à-dire que les Français sont satisfaits que le président, on a vu les sondages de manière assez étonnante, sont satisfaits que le président n'ait pas la majorité absolue. Je ne suis pas sûr que sur la distance, il soit aussi satisfait d'un pugilat permanent à l'Assemblée nationale. Parce que c'est vrai que nos chers députés, enfin, d'ailleurs, la vie politique française n'est pas organisée autour du compromis. On n'est pas autour de la France. Tout le monde vit avec le compromis. Les Italiens, les Allemands, les Espagnols. Nous, c'est quand même pas notre culture politique. Donc, soit ils sont capables, soit ils sont pas capables. Je pense que les Français peuvent se lasser assez vite aussi d'un...
Mais comment ils peuvent l'exprimer, cette lassitude? Dans la rue?
Dans la rue, dans
les prochaines élections, c'est loin. Hein,
oui, les prochaines élections, c'est les européennes. Donc, dans un premier temps, oui. Après, il y aura la pression des sondages, la pression aussi sur l'exécutif.
Hein. Et on peut peut-être le réapprendre. Réapprendre cette culture du compromis et cette culture de trouver des accords entre partis. Après tout, la Troisième République n'est peut-être pas si mauvaise en termes d'héritage législatif. Voter
quelques grands textes.
Voilà, voter des grands textes, à voter.
Michel Rocard a voté voter des textes importants avec une majorité relative.
Absolument.
Merci donc à tous les trois. Gilles Maintré, Alexandre Chevaux, Bruno Jeudy. Bonne soirée à vous sur Europe 1. Alexandre Lemaire pour les infos à 20h. Et ensuite, Mouloud Achour vers Van Underground. Bonne soirée sur Europe 1.
Europe 1, 18h-20h.
Punchline, Laurence Ferrari.